marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire tunisienne.
Olfa Rambourg, tunisienne, présidente de la fondation Rambourg.
Rida Mouni, tunisien, commissaire d'exposition.
L'éveil d'une nation, c'est le titre de l'exposition présentée ici à Tunis, au palais Ksar Es Saïd. Et vous allez l'entendre tout au long de cette émission, c'est beaucoup plus qu'une exposition dans un pays dont l'onde de choc de la révolution de 2011 continue de se répercuter dans la société civile. Et c'est ce que nous allons évoquer avec vous, Rida Mouni. Bonjour.
Bonjour.
Donc on l'a compris, vous êtes tunisien, mais vous êtes aussi historien de l'art.
Oui, exactement. Je suis tunisien, historien de l'art, et je suis commissaire de cette exposition, L'éveil d'une nation.
Et avec vous également, Olfa Rambourg, on l'a entendu aussi, vous êtes tunisienne.
Comme mon nom ne l'indique pas, oui, je suis tunisienne et je suis la présidente de la Fondation Rambourg qui a porté ce projet, l'exposition L'éveil d'une nation.
Alors je le disais, L'éveil d'une nation, c'est une première, c'est une exposition ici à Tunis dans ce palais Ksar Es Saïd. Et ça porte en fait sur toute une période que vous appelez la période des réformes. J'aimerais que l'on définisse un petit peu cette période des réformes et surtout... Pourquoi, Rida Mouni, cette période des réformes est-elle présentée au fond comme la naissance de la Tunisie moderne ?
C'est une période fondatrice parce que c'est un moment durant lequel la Tunisie s'autonomise et durant lequel elle crée véritablement les institutions de l'État tunisien moderne et durant lequel se réalisent certaines avancées qui sont inédites et historiques, comme l'abolition de l'esclavage en 1846, Ahd el-Amen, un pacte fondamental universel, une charte universelle, et surtout la constitution de 1861 qui crée une monarchie constitutionnelle, la première dans un État arabe et musulman.
C'est une période aussi où la royauté en quelque sorte s'affranchit des oulémas, des religieux.
Nous ne pouvons pas dire que c'est une période durant laquelle la royauté s'affranchit de la tutelle, on va dire, intellectuelle, philosophique et religieuse, mais c'est une période durant laquelle il y a un véritable débat sur le cadre légal de ces réformes dans un cadre religieux beaucoup plus large.
Alors on ne peut pas présenter cette exposition, L'éveil d'une nation, comme n'importe quelle exposition, j'ai envie de dire, parce que on l'a rappelé en ouverture de cette émission, la Tunisie est quelques années après sa révolution. Il y a un bouillonnement incroyable. Je suis ici à Tunis depuis quelques jours et je n'arrête pas de rencontrer des gens qui ont mille projets. Et on sent cette volonté de la société civile de participer à la construction, à la reconstruction. Et dans cette dynamique, comment vous est venue l'idée de cette exposition et de quelle façon avez-vous sollicité Olfa Rambourg ?
En réalité, c'est une collection qui se trouvait dans des réserves et que je connaissais à travers mes recherches. L'idée générale était de créer un musée avec ces collections et de les montrer au public. Et nous nous sommes dit, dans un premier temps, ce qui était très important, c'est de faire une exposition, faire connaître cette collection au grand public et d'une certaine manière participer à ce phénomène de démocratisation de l'accès au patrimoine en faisant cette exposition pour que les gens connaissent d'une part la collection, mais aussi le bâtiment qui est très très important.
Olfa Rambourg, comment ça s'est passé ? Moi je veux tout savoir.
Bien, ça s'est passé d'une façon assez simple finalement. Rida est venue me voir en me disant qu'il voulait me montrer un endroit assez exceptionnel. C'était l'été 2015. Donc il m'emmène en face du musée du Bardo. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, je pense que tous les Tunisiens connaissent le nom Ksar Saïd. Mais il y en a très très peu qui savent de quoi il s'agit exactement.
Lorsque vous arrivez ici, c'était un lieu fermé. On est à deux pas du Bardo, effectivement, du musée du Bardo. Mais ici, en revanche, ce n'était pas du tout ouvert au public.
Non, 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 pas du tout. C'est fermé à clé. Je me rappelle, il y avait un monsieur qui nous a ouvert le palais avec ses clés qu'il avait dans la poche. C'était assez extraordinaire. Et quand on est rentré et que j'ai vu la beauté de ce palais et... au premier étage, quand j'ai découvert toutes les œuvres, les peintures, le mobilier, j'ai eu un choc incroyable parce que je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Je ne pensais pas qu'on avait ce genre de choses en Tunisie parce que la plupart des œuvres sont très européennes pour nous. Ça n'est pas de l'art islamique, ce sont vraiment des peintures de souverains européens, mais aussi des beys. Et c'est là qu'est venue l'idée, on s'est dit c'est pas possible, on peut pas partir et dire ben tant pis, c'est dommage, mais on doit faire quelque chose. Et c'est de là qu'est née l'idée de l'exposition.
Alors avant de faire une exposition, il a fallu faire ouvrir ce lieu, il a fallu réunir une collection d'œuvres. Comment vous y êtes-vous pris ?
Il a fallu commencer toutes les démarches avec l'Institut National du Patrimoine pour obtenir le premier partenariat public-privé entre la Fondation et l'Institut National du Patrimoine. Et puis forcément, il fallait tout construire autour de cette exposition, parce qu'une exposition de ce type en Tunisie n'a jamais été faite. C'est vraiment un projet totalement inédit. Et puis il fallait rassembler d'une part la collection, une collection qui puisse rentrer dans la thématique de cette exposition, ce qui n'était pas simple, puisque cette période était un peu une période occultée depuis Bourguiba et par la suite une occultation qui s'est faite naturellement sous Ben Ali. Mais la période bellicale, enfin la période historique des réformes que l'on interprète, enfin qu'on associe à la période bellicale ici en Tunisie, est une période qui a toujours fait peur d'une certaine manière aux différents présidents tunisiens, parce que c'est faire ressurgir l'image ou les mémoires d'un certain régime en Tunisie. Donc d'une certaine manière, ça a été, toute cette mémoire a été occultée. Et donc le but, c'était aussi de convaincre, de pouvoir faire une exposition sur cette période. Et nous, ce que nous avons dit, c'est que tout simplement, nous faisons une exposition sur l'histoire de la Tunisie et non pas sur l'histoire d'un régime.
Alors j'aimerais qu'on revienne justement sur les œuvres. Olfa Rambourg, où est-ce que vous êtes allé chercher les œuvres ?
Alors il y a une grande partie qui se trouvait à Ksar Saïd, mais dans un état vraiment lamentable, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu les montrer telles quelles. On a restauré les peintures et on a restauré le mobilier, les trônes qui se trouvaient dans le palais. Donc il y a une grande partie de ce qui est exposé qui est la collection de Ksar Saïd. Et puis à côté de cela, on a, et ça aussi c'est une première, obtenu des prêts exceptionnels de la Bibliothèque nationale, du ministère de la Défense et des Archives nationales. C'est la première fois que des institutions publiques prêtent, dans le cadre d'un partenariat public-privé, des œuvres aussi importantes, parce que c'est quand même les originaux de la Constitution de 1861, du pacte fondamental de 1857, de l'acte de l'abolition d'esclavage en 1846. Donc ce sont des pièces vraiment extrêmement importantes pour nous. Et on a été très émus et très heureux de pouvoir les présenter au public pour la première fois.
Myriam Azizi, prof, je suis venue le premier jour de l'ouverture de l'expo et je découvre vraiment une richesse par cette expo-là. En fait, on se réapproprie en quelque sorte, les Tunisiens se réapproprient leur passé, dont les manuels scolaires ont l'étudié, mais vraiment rapidement, jamais dans le détail. Et puis là, avec cette expo, on voit une autre nation. On comprend comment la Tunisie est née avant Bourguiba, avant Ben Ali. Donc on revient aux sources de la nation.
Donc Cheda, c'est l'occasion de découvrir un palais, c'est aussi l'occasion de découvrir un jardin et de s'imaginer hein, cette époque des Beys. En quoi ce palais et ce jardin sont remarquables au fond ?
Le palais et le jardin sont assez remarquables dans le sens qu'ils sont conservés. On a un très joli jardin qui s'étendait devant le palais et aussi autour, parce que c'était un vrai champ d'orangerie, de vignes également. C'est aussi un lieu dans lequel le bey se promenait à cheval. Et puis c'est un de ces, comme on l'entend, c'est un de ces rares espaces verts dans lesquels on est vraiment dans l'intimité du lieu, dans l'intimité du jardin qui est totalement en symbiose avec le lieu. C'est un lieu vraiment magnifique à plein d'égards, parce que des espaces comme celui-ci, il n'y en a pas beaucoup, ni au Bardo, ni même à Tunis.
Et du coup, Olfa Rambourg, les Tunisiens osent rentrer là ?
Ah oui, les Tunisiens osent rentrer et ça nous fait très plaisir. Il y a beaucoup de familles qui viennent pique-niquer, faire des petits anniversaires pour leurs enfants. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette exposition et qu'on voulait ouvrir ce lieu, parce qu'il appartient aux Tunisiens et qu'on voulait qu'ils se réapproprient aussi le lieu, pas seulement leur histoire, mais le lieu. Et ce qui serait bien, c'est que ce jardin devienne un lieu public où les gens viennent profiter de ce jardin, y déjeuner, passer du temps en famille et rentrer ensuite dans le musée. Ça va les rapprocher du musée, petit à petit.
Et ce palais Ksar El Saïd, comment on peut le présenter, comment on peut le décrire ? Avec sa façade ocre, son moucharabier vert.
Déjà, c'est un très beau palais, avec un très beau jardin qui le précède. C'était un lieu de pouvoir, un lieu de représentation, mais aussi un lieu dans lequel vivait la cour du bey, le Seder bey, qui s'approprie ce lieu en 1869. Et c'est un lieu qui est absolument magnifique parce que d'une part, c'est un des derniers palais qui reste debout dans les environs immédiats du Bardo. Et puis, c'est un lieu qui matérialise un peu les influences étrangères et locales que vit la Tunisie durant cette seconde moitié du 19e siècle, puisque c'est un lieu avec une grande inspiration italienne. C'est une façade qui est un peu avec une certaine rigueur. On voit simplement ce mur charabier qui n'est pas très décoré. Et dès qu'on rentre à l'intérieur, on est dans une alternance de décoration à l'européenne, à l'orientale. C'est un lieu absolument unique. C'est un lieu assez magique et puis dans lequel vivait cette cour de Cedr-Bey de 1869 à 1882 et qui a connu aussi des moments très très importants de l'histoire.
Alors justement, cette histoire politique et sociale, ce contexte dans lequel ces beys justement vont peu à peu réformer la Tunisie dans le cadre de l'Empire ottoman. C'est avec Leïla Temine Blili que nous allons en parler pour cette exposition « L'éveil d'une nation ». Au son des oiseaux du jardin du palais Ksareh Saïd, la marche du monde, donc à l'occasion de cette exposition, l'éveil d'une nation, revient sur ces deux siècles de réformes menées par les beys ici à Tunis, à une époque, Leïla Temine Blili, où différentes influences se jouent au fond ici en Méditerranée. J'aimerais que l'on replante un peu le décor dans lequel ce palais a été créé.
Nous sommes au milieu du 19e siècle et la Méditerranée pèse de tout son poids sur la Tunisie. Donc c'est presque un jeu à trois entre Tunis, Istanbul, mais également les capitales européennes, hein, Paris, Marseille. Il y a énormément de rapports commerciaux entre Tunis et Marseille. Il faudrait peut-être rappeler que les savonneries de Marseille fonctionnaient avec l'huile tunisienne, c'est quand même une chose importante. Donc on est dans une configuration extrêmement mouvante. Se profile aussi un petit peu la colonisation. Alger est quand même occupée depuis 1830. Tripoli est réoccupée par les Ottomans. Et c'est dans cette configuration extrêmement complexe et compliquée que va se développer ce mouvement de réforme donc, en plein milieu du 19e siècle.
Alors c'est un mouvement de réforme qui est porté par les beys, vous l'avez dit, et à l'origine de ce pouvoir des beys pendant deux siècles, une famille, une dynastie, la dynastie husseinite. Donc ce sont eux, au fond, qui vont porter ces réformes. Comment vous pourriez nous présenter cette dynastie husseinite, Leïla Temine Blili?
Le fondateur est un crétois. Il est de père crétois, en fait. Son père est arrivé à Tunis après que la Crète ait été occupée par les Ottomans, donc vers 1669. Et il s'est marié à une Tunisienne. Alors ce fondateur s'appelle en tunisien un Koulougli, c'est-à-dire un métis, en fait. Père turc ou assimilé et mère locale. Alors l'historiographie tunisienne, justement, nous dit que c'est à cause de ça qu'il a été choisi. Donc il est à la fois du terroir et appartenant aussi à l'Empire ottoman. Donc cette dynastie a été fondée à partir de 1705 et puis elle a dirigé la Tunisie pendant deux siècles.
Comment ça se passe au fond diplomatiquement entre cette dynastie husseinite, des beys qui vont régner donc pendant deux siècles ici en Tunisie, et puis l'Empire ottoman?
La Tunisie est une province ottomane. Elle a néanmoins réussi à établir une dynastie locale. Mais ce qui est évident, c'est que toute la légitimité est liée à l'Empire ottoman. C'est-à-dire à chaque succession, les beys attendent avec beaucoup d'impatience en fait, le firman d'investiture, c'est-à-dire la reconnaissance officielle. Donc on est dans ce jeu d'être à la fois autonome sur le plan administratif, mais symboliquement, la Tunisie est une province ottomane, il n'y a aucun doute.
Et d'ailleurs, ici même, au sommet du palais Ksar Es Saïd, flotte le drapeau tunisien, qui à sa façon raconte aussi cette histoire. C'est un drapeau qui a été créé en 1827, je crois.
Oui, oui. Et puis il ressemble beaucoup au drapeau ottoman, en fait. Hein, et c'est pas un hasard, pas du tout. Les deux portent, justement, le croissant et l'étoile à cinq branches. Ce qui change, c'est le fond. Rouge pour la Tunisie, blanc pour l'Empire ottoman.
De quelle façon, justement, Leïla Temine Blili, cette période des réformes, pour l'historienne que vous êtes, résonne avec les enjeux pour la Tunisie d'aujourd'hui, post-Ben Ali?
C'est-à-dire que moi, je suis bien contente, par exemple, d'avoir participé à cette manifestation culturelle, parce que, au moins, l'histoire, elle sert un peu à comprendre le présent. Si je prends la question de la Constitution de 1861, il faut dire que c'est un acte quand même fondateur. Aujourd'hui encore, quand on parle de Constitution, on a un référent. C'est cette Constitution de 1861. Sur les plateaux de télévision pendant toutes ces années de révolution, on en parle. On convoque, si vous voulez, cette première constitution du monde arabe.
Et on va la voir pour de vrai, hein, aujourd'hui, dans le palais.
Et c'est avec beaucoup d'émotion, en fait, qu'on va regarder ce texte, qui est un texte fondateur. Parce que je dois rappeler une chose, le parti anticolonialiste s'appelle le parti du Destour, c'est-à-dire la constitution, qui a été fondée en 1920.
Destour, c'est le nom de la Constitution, ça veut dire Constitution.
Donc tout le parti des années 20, qui va mener la lutte, on va dire, anticoloniale, il a pris ce nom-là, c'est-à-dire une volonté de renouer avec cette Constitution. Finalement, il y a un fondement de l'État tunisien, que la France n'a pas réussi à éradiquer totalement. Et cette continuité historique est importante entre cette époque des réformes et aujourd'hui.
Une histoire qui a été effacée par, finalement, la période de l'indépendance, par la période Bourguiba et par la période Ben Ali.
Tout à fait. Alors, ce n'est pas que la période soit effacée, c'est que nous-mêmes, historiens, nous avons toujours porté un regard négatif sur cette période, sous prétexte que les réformes, en définitive, aboutissent à la colonisation. Et donc, nous-mêmes, historiens, on a eu ce regard négatif, vu à travers ces documents qui sont absolument pleins d'émotions et pleins de... On se rend compte que c'est une époque fondatrice. Et qu'on a absolument besoin, nous-mêmes, de réécrire notre histoire. Et cette période, même si elle a abouti à la colonisation, elle a quand même mis en place des fondamentaux de l'État, des fondamentaux de la laïcité aussi. C'est une constitution démocratique et laïque, puisqu'elle ne s'inspire pas de la chaléra, puisqu'il y a eu des tribunaux aussi qui sont appuyés sur un droit positif. Donc tout ça, ce sont quand même des références qui reviennent aujourd'hui. Et on est dans la continuité.
En tant qu'historienne, mais également en tant que tunisienne, qu'est-ce que vous ressentez à travers votre participation à cette exposition, L'éveil d'une nation ?
Honnêtement, ça m'a fait énormément chaud au cœur, parce que pour une fois, nous sommes sortis de notre université, un peu de notre bulle, puis à répondre à un besoin quand même, un besoin de connaissances du passé, un besoin de se mettre dans cette continuité de l'histoire. Il n'y a pas eu de rupture avec la colonisation, il n'y a pas eu de rupture avec la République. En fait, il y a des fondamentaux qui remontent au XIXe siècle.
Et dont les Tunisiens ont besoin aujourd'hui à votre sens.
Tout à fait. Il y a un besoin d'histoire aujourd'hui, il y a une revendication du passé, il y a une demande de connaissance et de savoir qui est absolument extraordinaire dans la société civile. Chose qu'on n'exprimait pas beaucoup à l'époque, ni de Bourguiba, ni de Ben Ali, en fait. Ce n'est pas une peur, mais c'est cette impression que l'histoire ne sert à rien. Mais aujourd'hui, on sait que l'histoire sert à quelque chose. Elle sert justement à nous faire comprendre notre présent. Pourquoi la révolution a-t-elle réussi ici et pas ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'on est réellement inscrit dans cette modernité, dans cette démocratie ? Je pense que l'histoire apporte des réponses.
En s'appuyant sur cette histoire-là, on va pouvoir effectivement un jour arriver à faire ses élections, arriver à construire.
Je pense qu'on est plus dans l'optimisme. Hein. Le pire est derrière nous. Enfin, je crois que c'est les trois dernières années ont été les pires. Même si aujourd'hui, économiquement, on n'est peut-être pas sorti d'affaires, même si le terrorisme n'a pas totalement disparu. Mais moi, je pense qu'on est réellement en train de remonter la pente. Là. Ça prendra du temps. C'est peut-être pas les gens de ma génération... Mais je pense que nos enfants verront la démocratie, verront une entrée réelle dans la modernité.
Merci Leïla. La marche du monde à Tunis au palais Xarès Saïd à l'occasion de l'exposition L'éveil d'une nation, c'est à suivre sur RFI. يقول موسى يكن عشيق
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite suite de la Marche du Monde enregistrée à Tunis à l'occasion de l'exposition L'éveil d'une nation. Pour la première fois, le palais Ksareh Saïd est ouvert au public, restauré et présente une collection, L'art à l'aube de la Tunisie moderne 1837-1881, ou comment l'histoire de l'art nous raconte l'histoire de la Tunisie des réformes pendant deux siècles. Avec vous, donc Rida Moumni, vous êtes notre guide, historien de l'art, commissaire de l'exposition. Et nous allons donc rentrer dans ce palais. On l'a entendu tout à l'heure, c'est un palais qui finalement reflète cette époque où on est pendant l'Empire ottoman et où ici les baies aussi sont tournées vers l'Europe. Et vous allez nous montrer justement à l'intérieur du palais comment toutes ces influences se retrouvent dans les collections du palais Ksareh Saïd. Donc là, l'entrée du palais Ksareh Saïd avec des dorures, et tout de suite ce qui me frappe et ce qui attire mon œil, c'est ce bleu des céramiques.
C'est des carreaux de céramique de la fin du 19e siècle, de la deuxième moitié du 19e siècle. C'est des espaces qui sont vraiment très très beaux, puisque vous avez l'alternance de colonnes un peu à l'européenne, faites en marbre de Carrare, et puis l'alternance avec des carreaux, des panneaux de céramique tunisienne travaillés dans ce palais. Et puis on voit aussi le rythme des arcades qui sont là les unes après les autres, avec séparés aussi par des caissons un peu à l'italienne. C'est vraiment des espaces de réception qui sont très beaux, uniques dans leur conservation en Tunisie, puisque c'est le seul palais qui montre autant cette influence italienne telle que nous l'avons conservée.
Des bleus, mais aussi donc des jaunes et des verts. Et là, il y a vraiment un savoir-faire, Rida Moumni, des artisans tunisiens.
Des artisans, oui. En réalité, ici, il y a beaucoup de témoignages du savoir-faire des maîtres céramistes tunisiens. On a vraiment une variété de carreaux de céramique de différents types. Il y en a à peu près une quinzaine, une vingtaine ici dans ce palais. Et c'est véritablement un magnifique conservatoire de tout ce savoir-faire.
Alors, les beys donc, ne vivaient pas avec le peuple au sein de la ville fortifiée. Ils se font construire ces palais à l'extérieur de la ville. Nous sommes juste à côté, notamment du Bardo. Et ici, au palais Ksareh Saïd, comment faut-il imaginer cette vie? Quel est le goût de cette noblesse, de cette monarchie tunisienne? Ils sont tournés vers les arts justement orientaux, mais aussi ils apprécient l'art occidental.
C'est le 19e siècle, c'est véritablement le siècle de l'évolution du goût en Tunisie. C'est-à-dire, c'est un goût forcément ce qu'on appelle, ce qu'on voit par exemple dans l'architecture, c'est la tradition arabo-andalouse, mais petit à petit, on va voir l'attraction, le goût pour l'architecture italienne, pour les décors italiens surtout, qui est de plus en plus présent. Et d'ailleurs, depuis le XVIIIe siècle, c'est quelque chose auquel nous assistons à ce phénomène. Et c'est vraiment une cour aussi où on voit l'alternance de ces goûts. C'est-à-dire ici, par exemple, à Ksareh Saïd, comme au Bardo d'ailleurs, on a les plus beaux témoignages d'un goût pour cet art traditionnel, comme dans la chambre à coucher qu'on va voir à Ksareh Saïd, ici dans ce palais, qui est une chambre à coucher avec une architecture hantée, avec un plafond sculpté, avec un stuc en dentelle. C'est vraiment un travail très raffiné, un véritable travail d'orfèvre, et d'ailleurs rehaussé parfois avec de la feuille d'or. Et de l'autre côté, c'est-à-dire dans le grand salon, on voit un plafond peint à l'européenne, avec des motifs floraux, italianisants ou de tradition iconographique italienne. Et c'est vraiment ces deux mondes, ces deux mélanges qu'on retrouve dans ce palais d'une manière vraiment absolument sublime.
Au cœur de l'exposition L'éveil d'une nation, au cœur de ce palais Ksareh Saïd, avec ses influences à la fois européennes et orientales. Et puis alors, vraiment, ça déjoue les idées reçues, parce que le premier choc, c'est de voir tous ces Tunisiens qui sont représentés en peinture, en pied, et en plus, qui ont tous des visages extrêmement différents. Donc on a l'impression que ces influences qui sont présentes dans l'art sont également présentes dans la cour même des beys.
Déjà, la cour du bey de Tunis, c'était une cour très cosmopolite. Il y avait des gens de différents horizons, il y avait également des esclaves européens, des esclaves qui venaient de l'Empire ottoman, des esclaves qui venaient aussi également d'Afrique. C'est une cour qui représente vraiment toutes les influences. Et puis ici, dans ce musée, on voit vraiment dans cet espace muséal, on voit des tableaux en pied, Là, par exemple, on est en train de discuter, on a le portrait de Giuseppe Raffo, qui est l'oncle d'Ahmed Bey, qui est son oncle maternel, qui est italien, puisque la mère d'Ahmed Bey était également italienne. On a le portrait en pied également d'Ahmed Bey, qui a été peint à Paris en 1846. On a celui d'un mamelouk, c'est-à-dire ses servants du Bey, qui étaient des esclaves pris dans les, en Europe, qui ont été islamisés.
Alors lui, il est blond de chez blond, hein, il est voilà. Blond.
Lui,
il est blond.
Il est d'origine géorgienne, donc ce qui explique la couleur de sa peau et de ses cheveux. Et de l'autre côté, on a un mamelouk d'origine grecque qui vient de l'île de Chios et qui, lui, est blanc de peau et très brun et aux yeux bruns également.
Donc cela veut dire aussi, Rida Moumni, que les Tunisiens peignent. Il y a des tableaux, il y a des artistes et surtout, ils se représentent. Parce qu'on a toujours l'impression que dans une société musulmane, on ne peut pas se représenter.
Le problème est qu'on aborde tout le temps les questions de société, d'art à travers le prisme de l'islam. Ici, on a des peintures qui appartiennent à la première moitié du 19e siècle et à la deuxième moitié. Là, par exemple, nous avons la première œuvre sur chevalet, sur toile, peinture à huile signée de la main d'un Tunisien, Mohamed Ajoudali, qui est une copie d'un original fait en 1846. La toile date de 1858. Elle représente le portrait en pied d'Ahmed Bey, qui était le Bey qui régnait en Tunisie de 1837 à 1855.
Est-ce qu'on peut dire, Rida Moumni, qu'Ahmed Bey, donc, qui dirige la Tunisie pendant deux décennies, qui est dans le cadre toujours de l'Empire ottoman, qui assume ses grandes réformes, va être le père en quelque sorte de la modernité tunisienne?
Le terme modernité est en soi complexe, mais ce qui est sûr, c'est que Ahmed Bey allait développer une volonté de souveraineté et d'autonomie vis-à-vis de l'Empire ottoman. C'est lui qui crée la première armée tunisienne, Nidamia, pour un symbole un peu de souveraineté. C'est lui qui crée également l'école militaire du Bardo, qui sera une école qui aura une place très importante, puisque c'est la première école dans laquelle on enseigne un savoir traditionnel tunisien, mais également un savoir européen avec l'introduction de nouvelles sciences.
Et des Français qui viennent en soutien ?
Voilà, également, il y aura des instructeurs dans cette école qui sont tant français qu'italiens également. C'est celui qui va commencer pour la première fois à correspondre avec l'Empire ottoman en langue arabe, c'est-à-dire langue de la Tunisie. C'est également celui qui allait affranchir l'esclavage en 1846. C'est le premier décret abolissant l'esclavage et affranchissant les esclaves réalisés dans le monde arabe et musulman, 2 ans avant la France en 1846. Et c'est celui également qui allait s'installer dans le palais de la Mohammedi, s'éloignant du Bardo, devenant d'une certaine manière le premier chef d'État et non plus chef de famille, chef de harem.
On continue de déambuler donc dans ce palais Ksar Es Saïd et on arrive dans une salle qui me plaît beaucoup, c'est le voyage à Paris. Alors Ahmed Bey décide de se rendre à Paris en novembre 1846 pour obtenir le soutien de la France dans sa quête d'autonomie vis-à-vis d'Istanbul. Comment est-il reçu à Paris ?
Il est très bien reçu à Paris. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, Louis-Philippe et la France en général étaient la nouvelle voisine de la Tunisie, puisque la France était installée en Algérie en 1830.
Louis-Philippe, là, qui est devant nous, justement, en peinture.
Voilà, c'est un portrait fait d'après Winterhalter de Louis-Philippe. Et à côté, on a le portrait du duc de Montpensier, fils de Louis-Philippe, qui se rend à Tunis en 1845 et qui invite le Bey à se rendre à Paris. C'est un véritable accueil royal. Louis-Philippe appelle même le Bey de Tunis mon frère. Il partage une langue commune qui est l'italien, donc il peuvent parler directement sans avoir besoin de traducteur. L'accueil est très chaleureux. Durant son séjour, il l'emmène dans les plus beaux endroits, visiter la capitale, la ville des Lumières. Mais en même temps, c'est un voyage qui, politiquement, n'est pas une réussite pour le Bey de Tunis, puisqu'il se rend à Paris pour obtenir la protection de Louis-Philippe en cas d'autonomie, d'indépendance vis-à-vis de l'Empire ottoman, chose qu'il n'aura jamais durant ce voyage.
Et par ailleurs, ça a dû beaucoup énerver le pouvoir d'Istanbul, ce voyage à Paris.
Ça l'a beaucoup énervé, puisqu'il voyait une de leurs provinces qui était en train de chercher son autonomie dans un empire qui était le plus puissant. Et donc forcément, lorsque Ahmed Bey allait revenir à Tunis, il allait avoir une très très grande crispation diplomatique avec l'Empire ottoman. Et il allait envoyer des ambassades, des cadeaux, et des cadeaux qui n'allaient même pas être enregistrés, ce qui était un signe d'énervement du sultan vis-à-vis de son faisal qui était Ahmed Bey.
Alors en revanche, Ahmed Bey, lui, va revenir avec plein de cadeaux de Paris. Et certains de ces cadeaux, on peut les découvrir ici dans le palais Ksar Es Saïd.
Alors oui, il revient avec beaucoup de cadeaux, des cadeaux d'une très grande valeur qui montraient un peu l'estime qu'on lui a donnée durant ce séjour à Paris. Il revient notamment avec une magnifique tapisserie des Gobelins représentant Louis-Philippe, qui est un exemplaire absolument unique, puisqu'on ne connaît pas d'autres exemplaires représentant le roi de France, le roi des Français. Il revient également avec un magnifique guéridon qui aujourd'hui est conservé au musée du Louvre. Il revient également avec beaucoup de mobilier, et notamment le trône qui allait devenir le trône des beys de Tunis de 1846 jusqu'à leur chute en 1957.
Le trône qu'on va aller voir tout de suite. Oui, nous voilà dans la salle du trône, qui rappelle en fait une salle du Bardo, juste à côté. Qu'avez-vous voulu reconstituer en fait ici, Rida ?
Ici, on a essayé de reconstituer la salle du trône telle qu'elle était, enfin c'est véritablement une tentative, mais telle qu'elle était dans le palais du Bardo. Alors on voit au milieu de cette salle, au fond, le trône du bey de Tunis qu'il a rapporté avec lui en 1846 et que nous avons restauré pour cette exposition. Et il est encadré de gravures, une gravure représentant la reine Victoria, l'autre Napoléon III. Et des deux côtés, des deux ailes de cette salle, on a des portraits de souverains européens, les plus grands souverains de leur temps, notamment François-Joseph, Napoléon III. De l'autre côté, on a Victor Emmanuel II d'Italie. Et on a un dernier tableau qui est un cadeau fait à la Tunisie par les États-Unis, qui est le portrait de George Washington, d'après le Lonson Portrait, qui est le portrait le plus important du premier président de la République américaine.
Donc là, nous sommes à la fin du 19e siècle. Donc cela veut dire que le bey de Tunis est en relation finalement avec tous les grands chefs d'État qui comptent sur la planète à l'époque.
C'était une manière de montrer qu'il, d'une part, qui s'autonomisait du pouvoir ottoman, puisque ce qu'on voit, ce sont des têtes couronnées et des chefs d'État européens ou américains. Et c'était une manière de montrer aussi que la Tunisie avait des relations diplomatiques avec le monde et qu'elle était ouverte sur le monde à cette époque-là.
Écoutez la marche du monde enregistrée à Tunis, au palais Xerès Saïd, où nous vous retrouvons, Olfa Rambourg. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fondation Rambourg, mécène de cette exposition L'éveil d'une nation, où nous découvrons environ 300 œuvres d'art, tableaux, céramiques, uniformes, médailles, pour évoquer cette Tunisie des réformes de 1837 à 1881. Alors c'est quand même une exposition dont les femmes sont totalement absentes, Olfa Rambourg. Comment l'expliquez-vous ?
On est quand même dans un contexte oriental où les femmes sont très discrètes. Elles sont absentes, en effet, des peintures. Elles sont absentes des archives, même. On a juste des costumes de femmes.
Oui, c'est vrai, il y a deux très beaux costumes de femmes.
Il y a des costumes de femmes.
Très riches.
De très beaux costumes de femmes de l'époque, mais on sait tous que ce sont les femmes derrière les moucharabias qui commandent et qui soufflent, obéissent certaines idées. Donc, elles ne sont pas visibles, mais elles savent ce qu'elles font en cachette, on va dire.
En revanche, les femmes et les enfants sont très présents parmi les visiteurs, comme nous avons pu le constater en suivant l'atelier bande dessinée proposé par Abir Ghasmi.
Loulaïd, très grand, juste, on se rassemble tous ici, on va commencer la visite. Un savant, un arabir, lui m'a fait l'atelier, ma brave. On va aller maintenant directement l'atelier, on va faire un petit tour. Je leur ai dit qu'on va faire un petit tour dans l'exposition et qu'il fallait faire attention à tout ce qui peut attirer leur attention, des dessins ou des peintures. Ils m'ont dit, on n'a pas de téléphone, je leur ai dit, il faut voir avec les yeux. Ça, c'est les tenues militaires. Et donc, la Asie El Askaria, qui est généralement brodée avec des fils d'or, ou elle a d'argent. Ça date du 19e siècle. Le Hajit, les Nakulurums, ce qui est important, Rali Bach, ou Mohamed Bach, Khater. Et donc, c'était Rutabla, les Amtals militaires. C'était les hauts gradés des militaires. Ou elle a un matanès fitounes. Mais qu'est-ce qu'il y a de la Tunisie avant? La Tunisie, avant, ils mettaient des tenues plutôt traditionnelles, soit les sarouels, la jubba. Mais là, ça marque l'ouverture progressive de la Tunisie vers l'Europe. Ça a commencé par les habits militaires qui sont devenus un peu plus européens, avec un pantalon, comme vous pouvez le voir ici. Pour les médailles, il y a plusieurs catégories de médailles. Les catégories de médailles, par exemple, quand il faisait partie de la famille du Bey, il avait droit à une médaille, une chaîne d'hommes. Quand il faisait partie du militaire, il y avait des catégories de médailles. Mais en quoi c'est fait? Je pense que c'est en diamant.
Après la visite de l'expo, c'est l'atelier BD. Avec vous qui êtes scénariste, vous vous présentez.
Je suis scénariste BD et cinéma et coordinatrice d'un collectif de bande dessinée tunisien qui s'appelle Lab 619.
Comment vous avez abordé ce projet? Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, en tant que scénariste de BD?
Alors, le fait de pouvoir initier les enfants à l'histoire tunisienne est extrêmement important, de choisir quelque chose de ludique, qui ne soit pas trop complexe, parce que généralement, l'histoire telle qu'on la raconte dans les livres scolaires n'est pas forcément très intéressante pour les enfants. Alors, on a choisi de ne pas donner trop de dates ou de noms de personnages compliqués, mais de raconter réellement une histoire en images.
Alors, quelle histoire on raconte ?
C'est l'histoire de la Tunisie de 1837 à 1881. C'est l'histoire de la Tunisie moderne, c'est-à-dire la construction de l'État moderne. Ça a des répercussions sur la Tunisie d'aujourd'hui et c'est très important pour les enfants de comprendre cette succession d'événements qui a amené à avoir la Tunisie qu'on a aujourd'hui.
Alors là, on peut peut-être leur demander ce qu'ils ont choisi de dessiner. Vous allez traduire. Là, mon garçon, tu peux me dire ce que tu as choisi de dessiner ?
Il a choisi de dessiner le bâtiment. Enfin, c'est le bâtiment d'un des palais que Khairedin Bech a fait. C'est une école, l'école Saliki. Et il y en a plusieurs qui ont choisi de reproduire l'image du palais. Déjà, elle est plus simple à redessiner parce que c'est des lignes droites. On peut faire ça avec une règle. Mais je leur ai proposé, par contre, de créer une histoire autour de ça. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter à ce qu'il y a dans le livre.
Moi, j'ai parlé de mon histoire, que avant les villageois, comment ils habitaient. Et quand un jour le roi, quand il est parti en France, il a vu les merveilles de France et il a trouvé ça merveilleux. Alors il a décidé d'améliorer la Tunisie et il a pris l'argent des villageois pour faire les travaux.
Nous avons parlé lors de la visite des coûts de modernisation, de tous les travaux qui ont été entrepris. Donc les impôts ont augmenté, les gens n'étaient pas contents. Donc c'est sa manière à elle d'interpréter la crise financière de la Tunisie. Elle a très bien compris.
Comment vous abordez justement cette question de la crise financière du coup dans la bande dessinée? Cette crise financière qui finalement va conduire au protectorat français.
On a essayé de raconter la crise financière à travers l'histoire de Mostafa Khaznadal, justement, qui a géré la Tunisie pendant la crise financière, qui a aussi contribué. Donc on a expliqué qu'il n'avait pas très bien fait son travail finalement, qu'il avait, en plus de mal gérer un peu cette crise, emprunté, on va dire, aussi de l'argent à l'État, et que comme il ne faisait pas très bien son travail, on a dû le remplacer par Khairedin Bech. Donc il est tout triste à la fin de quitter son poste, mais les enfants comprennent que c'était assez mérité.
Abir Ghasmi, si vous étiez une petite fille et que vous participiez à cet atelier, vous auriez choisi de dessiner quoi, vous ?
J'aurais choisi de reproduire le palais, l'histoire du palais, parce qu'on arrive à entrevoir à travers les images toute la splendeur du palais à l'époque. On arrive à imaginer les jardins qui étaient très connus apparemment, avec des roses et des orangers, avec les grands chandeliers, avec les rideaux. Enfin, imaginez ce palais dans sa gloire d'époque.
Et vous auriez utilisé quelle couleur ?
Beaucoup de vert, parce que cette région était déjà connue pour l'agriculture, mais aussi du rose, que toutes les petites filles aiment, je pense. C'est la couleur des roses qu'il y avait aussi. Il y a du rose même dans les faïences, un petit peu de bleu. C'est des couleurs très tendres, je trouve.
L'atelier BD proposé par Abir Ghasmi, scénariste de la bande dessinée L'éveil d'une nation, c'est la version pour enfants, Olfa Rambourg. Quelle est votre réaction à l'écoute de ce reportage ?
Moi, je suis très émue, parce que quand on a pensé ce projet, c'était vraiment aux enfants qu'on pensait. C'était à la nouvelle génération. Ce projet leur est dédié. Donc, de les voir profiter du palais, connaître leur histoire, se rapprocher de leur patrimoine, les faire rêver, les faire réfléchir à la Tunisie, à ce qui a été fait, à ce qui peut être fait. On a absolument voulu qu'il y ait un aspect pédagogique à cette exposition, qu'elle ne soit pas quelque chose peut-être de trop intellectualisé par rapport aux enfants. On voulait qu'ils soient partie prenante du projet. Et donc, je suis absolument ravie de la réaction. On est complet toutes les semaines pour tous les ateliers pédagogiques. Et c'était aussi et surtout pour eux qu'on a fait tout ça, pour les enfants.
Il y a également un vrai travail avec les professeurs, hein, avec les scolaires. Moi, j'ai croisé beaucoup de lycéens,
absolument,
y compris de quartiers en difficulté.
On a commencé à accueillir la totalité d'un collège, et ça, c'est la première fois que ça se fait en Tunisie. Les 525 élèves d'un collège d'un quartier très défavorisé à Tunis, qui s'appelle Bebjdid, ils vont tous visiter l'exposition, et ça, c'est extraordinaire. Ils avaient des étoiles dans les yeux, c'était fabuleux de les voir.
Rida Moumni, on l'a entendu dans la bouche de la petite Sarah, les réformes bébés ont coûté très cher. Alors, est-ce que d'une certaine façon, cet endettement, au fond, a facilité l'arrivée des Français en 1880, et comment vous pourriez qualifier, au fond, cette colonisation ?
C'est difficile de trouver vraiment les mots exacts, mais c'est sûr et certain que l'origine de ce protectorat était un protectorat économique avant toute chose, puisque le 19e siècle, c'était également le développement des grandes banques. Ici, en Europe, ici, en Tunisie, on développait la Tunisie, on l'a réformée, et surtout, on contractait des dettes auprès de grandes banques européennes, et notamment la Grande Banque Rothschild ou d'Erlanger, qui avait un grand rôle aussi dans la mise en place de cette commission financière, qui allait gérer la dette tunisienne, mais qui allait un peu gérer le sort de la Tunisie. Il y a eu véritablement un élan de reprise à la fin du 19e, mais c'était, on va dire que le tour était déjà joué.
Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui est expliqué dans le traité qui est sous nos yeux. Nous sommes juste à côté d'un document, et c'est le seul, je crois, écrit en français. Hein, c'est le traité du Bardo. Quelle est la version qui est donnée dans le traité ?
La version est bien évidemment une version qui parle de resserrer les liens entre deux nations voisines que sont la France et la Tunisie. Une France qui pacifie un peu les relations parce qu'elle a pris comme prétexte l'arrivée de tribus dans la frontière algérienne, mais qui en réalité était une manière très très enjolivée, politique, de décrire un peu ce protectorat, ce colonialisme qui s'installe en Tunisie à partir de 1881.
Et sous nos yeux également, Rida Moumni, cette table qui est...
Alors c'est un très beau guéridon fabriqué par des artisans italiens qui est composé de différentes plaques de marbre probablement récoltées dans les ruines de Carthage, parce que c'était quelque chose qu'on faisait ici en Tunisie. On est à Tunis, Carthage se trouve à une dizaine de kilomètres, et c'est une table qui a une importance historique et mémorielle, puisque c'est sur cette table qu'a été signée d'une part le traité du Bardo en 1881, mais aussi le retour des terres agricoles signé par le président Habib Bourguiba au début des années 60. Et donc c'est une table qui a une temporalité également dans l'histoire de la Tunisie et qu'on montre pour la première fois aux visiteurs.
Un dernier document peut-être que l'on pourrait évoquer, Rida Moumni, c'est ce pacte fondamental, parce que j'ai pu constater combien il interpellait les Tunisiens d'aujourd'hui. Il y a ici un débat autour de l'identité, c'est clair.
C'est sûr et certain, puisque c'est une pierre angulaire des textes de loi tunisiens. C'est un texte qui est vraiment fondamental. Ça s'appelle déjà un pacte fondamental, Ahd el Emen. C'est une charte universaliste qui développe pour la première fois les concepts d'égalité, de liberté, de justice. C'est ce pacte-là qui donnera l'égalité de droit aux Tunisiens, quelle que soit leur couleur, mais aussi qui donnera la liberté de culte à la minorité juive de Tunisie.
Donc juifs, aussi... musulmans, chrétiens, tous tunisiens.
Voilà, tout simplement. Il n'y avait pas beaucoup de chrétiens tunisiens, mais c'est surtout les juifs qui sont nommés, puisqu'il s'agissait d'une communauté très importante en Tunisie. Et puis, également, c'est ce texte-là sur lequel prêteront serment tous les beys de Tunisie, et surtout en garantissant les concepts développés par ce texte qui sera très important pour tous les Tunisiens.
Merci Rida Moumni. Je rappelle que vous êtes le commissaire de cette exposition L'éveil d'une nation ici au palais Ksar Es Saïd. Et c'est jusqu'à, et c'est Olfa qui va nous le dire,
jusqu'au 27 février 2017.
Merci Olfa Rambourg, merci Rida Moumni. Je vous invite à venir donc découvrir cette exposition ici à Tunis. Est-ce que la Tunisie est dans une période où ou sa jeunesse peut-être aurait besoin de se reconnecter avec son histoire. Quel est votre point de vue ?
C'est juste, en fait, il faudrait vraiment insister sur le fait qu'avant, on a pu faire des choses. On acceptait le mélange, on acceptait d'être mélangé avec plusieurs cultures. C'est même nos dirigeants qui l'encourageaient et ça nous a amené beaucoup de bonnes choses. Donc maintenant, dans le contexte actuel, oui, il faudrait vraiment rappeler ça aux générations, leur faire penser, enfin leur faire comprendre surtout que notre identité, elle se résume pas seulement à la religion comme on peut le croire maintenant. J'ai l'impression que maintenant tout le monde se résume à être musulman, voilà, alors que c'est vraiment, enfin c'est pas vrai du tout, on a fait d'autres choses et voilà, ce serait bien de le rappeler tout simplement.
Que ce soit Farah qui vit en France, ou que ce soit vous, Wassim, qui vit ici à Tunis, vous avez l'air assez sur la même longueur d'onde finalement.
Oui, bien sûr. Mais en plus, c'est un sujet d'actualité. Dernièrement, il y a une étude qui est sortie sur les origines génétiques des Maghrébins en général, mais l'étude a été faite en Tunisie. Et bizarrement, genre, c'était très surprenant, on a 3% de gènes arabes. Les Tunisiens ont 3% de gènes arabes. On est majoritairement nord-africains, amazir, les nomades de l'Afrique du Nord. Tout le monde s'intéresse de plus en plus aux origines, à notre passé, d'où on vient. Voilà, moi quand je dis on est arabe, musulman, c'est pas péjoratif, mais vaut mieux genre savoir notre vraie origine.
Très métissé, hein, on le voit dans l'exposition. Hein. Ouais. Vous pensez que c'était à ce point-là ?
Même les tableaux qu'on a vus, eux c'est des Tunisiens, un peu genre ils ne ressemblent pas.
Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des blonds, il y a des bruns.
Ouais. C'était très surprenant, oui.
Tunisie, l'éveil d'une nation, c'était une marche du monde réalisée par Manu Pochèze et Sophie Janin. À retrouver sur RFI.fr, écrivez-nous, exprimez-vous sur Facebook, cette émission, c'est la vôtre.